enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alléluia. Alors, deuxième partie du message de la semaine dernière. Vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière? On a parlé de l'engagement. L'engagement, pourquoi? Pourquoi faut-il être engagé? Est-il nécessaire de faire quelques rappels? Oui, quand même, on va faire quelques rappels. Pourquoi est-ce qu'il faut être engagé avec le Seigneur? D'abord parce qu'on veut réussir notre vie. On veut la réussir sans négliger aucune partie de notre vie. On veut la réussir d'un bout à l'autre et dans tous les domaines. Amen. Deuxième chose, c'est pour bénéficier pleinement de toutes les bénédictions de Dieu. Alléluia. En étant complètement, pleinement dans sa volonté. Troisième chose qu'on a dit, c'est parce que on veut faire un impact dans notre vie, mais au-delà de notre vie, dans notre entourage immédiat, et aussi dans notre communauté, l'église locale, mais jusqu'à l'église de Christ, dans le pays. Alléluia, le monde entier. Ensuite, parce que Dieu nous invite à le faire. Dieu nous invite à être engagés. Dieu nous invite à être brûlants pour lui. Voilà pourquoi. Et cinquièmement, c'était la dernière chose que j'avais citée, c'était pour nous protéger. Protéger de quoi? Parce que Dieu nous invite à le faire. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps de refroidissement. Et pour éviter le refroidissement, nous devons être bouillants. C'est nous qui allons chauffer ce qui est froid, pour le rendre bouillant. Alléluia. On était resté là. Et on avait, comme verset clé, on avait pris Hébreux 2.1, 12.1, vous vous rappelez? Hébreux 12.1 qui dit que « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » C'était le mot persévérance qui était important. Le deuxième verset clé se trouvait dans 1 Corinthiens 9, au verset 26. Je cite, « C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. » Et ce qui est important là, c'est que j'ai les yeux fixés sur le but. Je ne cours pas n'importe où, je cours là où le Seigneur m'a montré. J'ai un but. Alléluia. Alléluia. Alors le but de cette deuxième partie, ce second prêche, c'est de donner tous les éléments pratiques que le croyant, le disciple, que l'enfant de Dieu doit avoir pour qu'il réussisse pleinement cet engagement. Alléluia. Alors, c'est sûr que si on parle de comment y arriver, ben c'est parce que la réussite, elle est conditionnée à des principes de base, des principes qu'il nous faut connaître et surtout qu'il nous faut mettre en application. Vous savez, la première constatation, vous l'avez dans vos documents. Donc vos documents, il y a des trous, ben, il va falloir mettre les mots qui vont bien, comme le fait Pasteur Ken. J'ai un petit peu copié, il ne m'en voudra pas. Il faudra mettre les bons mots. Alors, première constatation, c'est facile. C'est très facile. Pourquoi? Regardez, prenez Ésaïe 28 au verset 16. Ce verset-là, il mérite plus que quelques minutes. On pourra en faire tout un enseignement. Je vais vous le lire. Ésaïe 28 au verset 16. Moi, j'ai pris la version Semeur parce qu'elle est plus adaptée à ma façon de penser. Je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondation solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. Waouh ! Alors c'est sûr que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce verset a une très grande importance. Il en a eu dans le passé et il en a encore pour moi dans le futur. Et jusqu'à la fin de la vie, ce verset-là, je le mets en application. Ce verset, c'est pour le chrétien. Ce verset, c'était l'engagement avec Jésus, car on lui fait confiance. Il nous dit en termes clairs que si vous êtes là où vous vous trouvez en ce moment, là où Dieu veut que vous soyez, que ce soit professionnellement, que ce soit dans l'Église, là où vous vous trouvez maintenant, si vous vous appuyez sur Jésus, c'est-à-dire si vous suivez ses commandements et que vous les mettez en pratique dans votre vie tous les jours, bref, si vous marchez avec Jésus, alors, écoutez bien, c'est ce que dit la parole, personne au monde, d'ailleurs, ne pourra vous contraindre à fuir, quitter, abandonner ce que vous avez semé. Vous récolterez le fruit de ce que vous avez semé. Alléluia. Et ça, c'est la parole qui le dit, donc c'est la vérité. Mettez ce verset en application à tous les moments de votre vie. Si vous appuyez sur le Seigneur Jésus-Christ, vous ne serez jamais contraint à fuir. C'est vous qui décidez si vous devez partir ou non. Personne ne peut vous obliger à fuir. Alléluia. C'est sûr que l'implication pour le travail, par exemple, pour le travail, elle est gigantesque, importante. Personne ne peut vous enlever de la place où le Seigneur vous a placé. De même, la même chose pour les liens affectifs, pour le mariage, pour l'Église. C'est la même chose. Le diable n'a donc pas le pouvoir de vous faire fuir. Ok ? Ça, c'est pour ça que c'est facile. Si vous êtes amené à prendre la fuite, c'est parce que vous avez décidé d'abandonner de vous-même. Alléluia. En cas de problème, si vous avez des troubles dans votre vie, quels qu'ils soient, que les gens du monde vous font des troubles, prenez ce verset. Appropriez-le pour vous. Et vous resterez. Revendiquez-le. Alléluia. C'est donc facile à condition de comprendre et de le vouloir. Ok. On commence. Comment s'engager plus avec Jésus? Comment s'engager plus avec Dieu? Vous savez, que ce soit au travail, que ce soit pour votre mariage, votre vie de couple, dans votre famille, pour vos amis, si vous prenez un engagement, faites-le pour Dieu et devant Dieu. Alléluia. Vous savez ce que dit Colossiens 3 au verset 23? Il vous dit que mettez votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites. Prenez de la conviction dans ce que vous faites. Comme si c'était pour le Seigneur lui-même et non pour les hommes. Ce que vous faites, faites-le pour Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse à vous. Parce que Dieu s'intéresse à tout dans votre vie. Même les choses les plus banales. Dieu s'intéresse à votre vie. Et Dieu veut être partout dans votre vie. Il faut être convaincu de ce que Dieu veut pour votre vie. C'est-à-dire ce à quoi on peut s'engager. Alors, on peut y arriver. Voilà comment. Première chose que le Seigneur m'a montré depuis plusieurs mois, c'est pas quelque chose qui a été instantané, ça a duré presque 6 mois, c'est d'abord qu'il faut décider. Le mot c'était décider qu'il fallait mettre. Décider de quoi? Il faut décider de chercher la face de Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous ayez la certitude absolue de ce que Dieu veut vous dire. Qu'il n'y ait plus aucun doute. Donc d'abord, il faut décider. Ça prend d'abord une décision de votre part. Comment est-ce qu'on peut savoir si on en est sûr de ce que Dieu nous a dit? C'est quand vous êtes plus capable de penser à autre chose. Ou de penser à faire autre chose. Mais d'abord, il faut décider de chercher la face de Dieu. Il faut avoir ce vouloir. Et il faut que ce vouloir vienne de Dieu. Pas d'un désir égoïste. C'est important. Dans Philippiens 2, au verset 13, il est dit, vous avez tous les versets sur la petite feuille, il n'y a pas le contenu du verset, mais ça c'est facile ensuite de le retrouver avec une bonne Bible. À ce propos, vous avez marqué le 17 juillet, on est bien le 16, sur votre feuille. Dans la parenthèse. Ça y est, vous y êtes, Philippiens 2, verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir. Alléluia. Vous savez, la Bible nous donne un bon exemple avec Paul et Barnabas en acte 13, au verset 14. Vous vous rappelez ce qui se passe? L'Église s'est mise à prier. Puis Paul et Barnabas ont été mis à part. Et le Saint-Esprit leur a montré ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est cela que je veux dire là, dans ce passage. Ensuite, la seconde chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut accepter. Il faut l'accepter. Accepter quoi? Accepter ce que Dieu vous a montré. Mais pour cela, il est nécessaire de croire en lui. Pour croire à ce que Dieu vous dit, ou croire en votre appel, il est nécessaire de croire en lui. Être sûr que c'est pour vous. Avoir cette certitude qui va faire que croire que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous savez que personne n'est ici par hasard. Vous n'êtes pas né par hasard. Vous êtes prédestiné par Dieu pour accomplir une grande œuvre. Chacun de vous. Alléluia. Vous êtes prédestiné pour accomplir son plan pour votre vie. Et c'est important pour nous d'accepter ce plan et de le mettre en conformité pour le suivre, ce plan. On n'a plus de fausses raisons. Ceci, ça doit tomber. C'est une affaire entre lui et chacun d'entre nous. Donc la deuxième chose à faire, c'est accepter. Il y a une troisième, elle n'est pas des moindres, c'est, troisième mot, c'est participer. Il faut participer. Une fois qu'on l'a accepté, il faut participer. C'est-à-dire être participant de ce plan. Ça veut dire qu'il faut agir. Le mot participer contient l'action. Et cela va entraîner trois étapes. Et ça, c'est important. Écoutez. Il faut d'abord se préparer pour participer. Il y a trois étapes. La première étape, il va falloir se préparer. Il faut d'abord se préparer. Inévitablement, il y a une phase de préparation. À chaque fois que quelque chose doit être mis en place, il y a une première phase de préparation. On pense à tout. On croit penser à tout. Mais il nous manque toujours quelque chose. Cette préparation, ça consiste à recevoir ces dons. Les dons qui sont pour vous, pour chacun d'entre vous, pour accomplir le plan de Dieu dans votre vie. Alléluia, donc il faut se préparer à recevoir ces dons. Ensuite, il faut développer ces dons. Vous savez, ces dons-là que Dieu va vous donner, vous allez en avoir besoin. Parce que dans votre engagement, il va falloir utiliser ces dons. Peut-être qu'il vous manque encore quelques petites choses, mais soyez sans crainte. Si Dieu vous montre l'appel dans votre vie, que vous avez dans votre vie, soyez sans crainte parce que Dieu va vous équiper de tout ce que vous avez besoin. Alléluia. C'est lui qui nous conduit à la réussite. C'est pas nous qui, de notre propre chef, notre propre capacité, nous dirigeons vers la réussite. C'est lui qui nous y mène. Alléluia. Alors surtout, laissez-vous transformer par sa puissance et par ce don de l'Esprit qui vient pour vous. Car, vous savez quoi? Vous lui appartenez. Alléluia. Vous lui appartenez. Alors ne soyez pas rebelles. Laissez-lui la place. Vous savez, il y aura certainement des étapes. Ça ne va pas venir tout de suite. Il va y avoir des étapes avant que vous soyez prêts. Mais, étape après étape, vous allez réussir et vous serez prêt. Si vous mettez votre confiance en le Seigneur, vous serez prêt. Deuxième chose qu'il faut faire pour participer, c'est se tenir prêt. Une fois qu'on est prêt, il faut se tenir prêt. Alléluia. On peut se servir d'un verset comme Galates, chapitre 5, au verset 1. Il est dit, « Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Tenez donc ferme. » C'est cela, se tenir prêt. Vous êtes prêt, vous êtes équipé. Vous avez toute l'armure autour de vous là, et vous êtes prêt et vous attendez. La seconde chose à faire, donc, une fois qu'on sait qu'on est prêt, c'est se tenir prêt. Cette attente, c'est attendre quoi finalement? C'est attendre le bon moment. C'est attendre le moment que Dieu a prévu. C'est sûr qu'il faudra faire preuve de patience. Ça veut dire que Dieu va vous montrer comment on peut être une sentinelle, comment on peut surveiller les cieux pour voir venir le nuage. Alléluia. Vous savez quoi? Les nuages, ils vont venir. Vous savez que ça peut être 10 ans, 20 ans. L'appel d'un pasteur, ça peut mettre des années, des dizaines d'années. Ça ne vient pas comme ça. Il faut se tenir prêt. Oui, je suis prêt, Seigneur. Donne-moi une église. Ouais. Ok, dans 20 ans. Oh, c'est bon. Alléluia. Mais ce que je dis pour l'église, c'est la même chose pour un job. Un job que Dieu vous donne. Parce que vous devez être un fruit dans tel endroit. C'est exactement la même chose. Il faut se tenir prêt pour obéir au Seigneur. Le moment où Dieu ouvre la porte, vous passez. Pas avant. N'essayez pas de l'ouvrir cette porte avant. Et n'essayez pas de dire, ben, Seigneur, j'ai encore le temps d'y passer là. Prenez-la cette porte au bon moment. Vous savez que vous êtes prêt, mais vous devez aussi savoir que le bon moment viendra sûrement. Donc tenez prêt, tenez ferme. Et surtout, mettez toute votre confiance au Seigneur. La troisième chose qu'il faut savoir pour participer, c'est qu'une fois que vous vous tenez prêt, que c'est le bon moment, que la porte est ouverte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut embarquer! Il faut embarquer. Alléluia. C'est la dernière chose à faire pour participer. C'est le pas de la foi. Vous savez que vous êtes capable, vous savez que c'est le bon moment. Oui, mais il faut y aller. Alors faites le bon pas. Faites le pas de la foi. Ça, c'est participer. Vous savez, j'aime bien le parallèle, quand on parle de participer, avec le mot embarquer. Pourquoi j'ai pris ce mot embarquer, finalement? Et parce que, imaginez-vous que vous allez monter dans un bateau. Un beau bateau. Un bateau qu'on attend sur le quai. Enfin, c'est sûr que le bateau, on le voit venir. Mais il vient pas tout de suite. On voit la fumée. Il vient, il commence à grossir. C'est la vision qui commence à devenir de plus en plus claire. Mais il met un certain temps à venir. Le bateau, ça va pas vite. Surtout quand il rentre au port, il va pas vite. Mais il finit par accoster le bateau. Et vous savez, là, nous, là, quand on se tient prêt, c'est qu'on a préparé tous nos bagages. Nos valises, elles sont là, hein. Toutes nos affaires sont là. Nos sacs sont là. On est prêt à embarquer. On est sur le ponton. Et puis, à un moment donné, là, il faut monter à bord. Ah, c'est tout notre confort, là, qui va chambouler, hein. On monte à bord, c'est fini, là. On abandonne tout notre confort. Mais il faut le faire. Parce qu'on ne peut plus aller en arrière. Il faut le faire. Il faut monter. On va quitter quelque chose qu'on connaît. Un monde qu'on connaît. On prend le bateau et on y va. Alléluia. On rentre dans le bateau et puis le bateau s'en va. Puis on commence à voir le ponton qui disparaît et on prend le large. Alléluia. Pour un avenir meilleur. Et on est prêt à le faire parce qu'on s'y est préparé. On fait la volonté de Dieu et on le sait. personne ne peut nous dire le contraire. Parce que cela a été scellé en vous. Alléluia. Parce que vous avez pris le temps d'écouter le Seigneur. Amen. Alléluia. On est embarqué, on y est. Mais vous savez que il y a des choses que on doit comprendre et connaître et apprendre pour chacun de nous. Alléluia. Première chose, c'est que la Bible nous dit que attention, ne t'engage pas n'importe quoi. Ne t'engage pas trop vite. Pourquoi la Bible nous montre des choses pareilles? Et c'est parce qu'il y a des dangers. Ces dangers, nous devons les connaître. Le premier danger, c'est de faire des choses que Dieu ne vous demande pas de faire et qui vous éloignent du but. Vous vous rappelez? Persévérance et fixer les yeux sur le but. Ne jamais quitter cela. Le premier danger, c'est des choses que vous pourriez faire qui vont vous détourner du but et vous commencer à regarder ailleurs. Ça, c'est un danger. C'est de se lancer à faire des choses qui vont ou qui ne vont pas vous rapprocher du but. Si ça vous rapproche du but que le Seigneur vous a donné, comprenez l'importance de prendre le temps avec le Seigneur avant. Mais si c'est quelque chose qui va vous écarter de ce but, attention, mettez des warnings partout. Mettez des lumières rouges. Attention, où je vais là? Est-ce que c'est un petit détour? Ou est-ce que je tourne complètement et je vais ailleurs? Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Des choses que la Bible est claire à ce niveau-là. Par exemple, quand la Bible parle d'engagement, de s'engager pour une autre personne. Faites pas. Proverbe 17, verset 18 dit « Seule une personne privée de bon sens se déclare responsable de la dette de quelqu'un. » Attention à l'engagement que vous prenez. Des fois, on discute, on s'engage. « Ah oui, tu peux, oui, ok, je fais ça. Ah, tu peux pas, ok, ben, c'est pas grave. » Non, attention. Prenez le temps avec le Seigneur. Que ce soit la sagesse du Seigneur qui vous montre ce que vous devez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire. Et la Bible est là pour vous montrer. D'autres choses, concernant par exemple des œuvres qui ne sont pas de Dieu. Vous savez qu'il y a des œuvres qui ne sont absolument pas de Dieu, qui n'ont rien à voir. Je ne veux pas les citer là, parce qu'on est dans une réunion publique, mais il y a des œuvres qui ne sont absolument pas de Dieu, qui paraissent bonnes pour le monde, mais qui ne sont pas de Dieu. Dans Acte 5, au verset 38, il est dit, Acte 5, au verset 38, « De deux choses l'une, ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes, et, dans ce cas, leur mouvement disparaîtra. » Vous savez, c'est pas moi qui le dis là, c'est la parole de Dieu, Acte 5, au verset 38, « Ou bien, il vient de Dieu. » Et alors, vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Alléluia! Merci pour la parole, Seigneur. Tu nous évites de faire des choses qui nous mèneraient à rien. La parole est totalement claire. On n'a pas à perdre notre temps avec des mouvements de l'esprit, des mouvements, de choses qui ne sont pas de Dieu. Ce n'est peut-être pas l'esprit de Dieu. C'est pour cela. Restez les yeux fixés sur le but, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Seigneur vous guidera, vous montrera. Ça là, ça mène à rien. Ça là, c'est de moi. Oui Seigneur, c'est pas mon appel. Oui, mais c'est de moi. Et pour aller là, il va falloir que tu passes par là. Oh, oui Seigneur. Ok, je le fais. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Troisième chose que parle la Bible, c'est des œuvres mortes. Mais c'est quoi une œuvre morte? Faire attention. quand on parle d'œuvre morte. Il y a beaucoup à dire, et beaucoup d'eau, beaucoup d'encre qui a été versée. C'est quoi une œuvre morte? C'est une œuvre qui n'est pas forcément mauvaise, dans le sens général, mais qui n'est pas pour vous. Ça veut dire que c'est une œuvre qui ne va pas profiter, qui ne fait pas partie de votre attirail d'équipement, et vous n'allez pas y arriver, ou alors ça va être avec votre propre force, et ça va être difficile. Ça va être fatigant. Et surtout, vous allez la faire, peut-être, mais peut-être pas avec la bonne attitude. C'est important, lorsque vous faites quelque chose pour le Seigneur, de le faire avec une bonne attitude. Sinon, cela ne vous profitera pas. Regardez, on va lire 1 Corinthiens 3, au verset 11. C'est un bon verset pour expliquer, peut-être sans en dire plus, ce que je veux dire. Ce que le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens, au verset 3, au verset 11, chapitre 3, c'est que l'on construise sur ses fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la chaume. L'œuvre de chacun deviendra manifeste, car le jour la mettra en évidence. En effet, c'est dans le feu qu'il se relèvera, et l'épreuve du feu montrera ce que vaut l'œuvre de chacun. Regardez la suite. Si l'œuvre que chacun a construite demeure, il recevra un salaire. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Lui, certes, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Les œuvres mortes sont des œuvres qui sont construites avec du bois, du foin et de la chaume. Parce que ça va brûler. Les œuvres qui vont rester, c'est des œuvres construites avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Celles-là, elles vont rester. Alléluia. Alléluia. Ce sont des œuvres, celles qui sont construites avec du bois, du foin et de la chaume, qui ont été faites avec nos propres moyens, sans que nous soyons invités à le faire par l'Esprit de Dieu. Vous savez, elles ne sont pas durables. Et personne ne va en profiter. Ce sont des choses que nous nous forçons à faire, peut-être de mauvais gré, comme pour nous justifier de quelque chose. Je sais de quoi je parle, je peux vous assurer. Des choses qu'on veut faire pour prouver quelque chose. Mais Seigneur, tu es bon. Et toi, tu corriges. Dans Hébreux 9, au verset 14, je vais vous lire Hébreux 9, au verset 14. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, comme une victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Alléluia. Vous savez qu'une œuvre morte, ça peut devenir une ruse de Satan pour nous éloigner des bonnes œuvres, celles que Dieu a préparées depuis le début de la création, pour nous, pour chacun de nous. Nous voyons que si nous ne prenons pas soin de respecter les étapes essentiel de rechercher la face du Seigneur. On peut perdre son temps, on peut perdre sa vie durant, dans un plan qui n'est pas de Dieu pour notre vie. Il y a des conséquences à tout cela. Et c'est pour ça qu'on en parle. On en parle parce qu'on veut grandir, parce qu'on veut aller de l'avant, on veut rester engagé avec le Seigneur. Les conséquences, c'est d'abord qu'on risque d'empêcher, en faisant des œuvres comme ça, on risque d'empêcher celui que Dieu avait préparé pour faire cette œuvre-là. On peut l'empêcher de faire son travail, d'accomplir, lui, le plan de Dieu pour sa vie. Et lui, là, il va s'engager ailleurs. Et il va faire des choses que Dieu n'a pas prévues pour sa vie. Son engagement, lui, il ne pourra pas tenir. Ensuite, ces œuvres-là, ces œuvres que Dieu n'a pas prévues pour nous, c'est des œuvres qui ne vont pas profiter. Parce qu'on va s'essouffler. On va se fatiguer. En essayant de faire quelque chose où on n'est pas équipé pour. On n'a pas les capacités. Et finalement, on va abandonner. Il est vrai que notre responsabilité d'être sûr de nous, avant de nous engager, elle est forte. Pour tenir un engagement, il va falloir qu'on compte pas seulement sur nos forces. Nos forces ne vont pas servir à grand-chose. Parce que avec nos forces, il est peu probable que vous puissiez tenir et y parvenir. Vous savez, c'est souvent la source de problèmes qu'on voit, c'est l'insatisfaction. On n'est pas content. On n'a plus cette satisfaction de faire pour le Seigneur. C'est aussi la fatigue. La fatigue de le faire. Ah, c'est lourd, Seigneur. Quel fardeau, Seigneur, que tu m'as mis sur le dos. Oui, c'est pas moi qui te l'ai mis, mon enfant. Dépose-le. Oh non, Seigneur, non. C'est mon fardeau. Dépose-le donc. Puis finalement, comme on fait mal notre travail, dans ce cas-là, parce que c'est lourd, ben, on va être soumis à la critique. Oh, lui, là, il a pris cette fonction-là, puis il fait mal. Il fait pas bien, là, regarde. Finalement, le travail sera bâclé. Et ça va se voir. Ça va créer des divisions. Personne n'est plus satisfait. Et c'est un échec. Attention, j'ai dit que la réussite est facile. L'échec aussi est facile. Mais en connaître les raisons va nous permettre de surmonter tout ça. Alléluia. Il est important pour nous de savoir distinguer l'œuvre qui porte le fruit. Vous savez, tout à l'heure, là, je disais que il fallait s'assurer que l'on réalise exactement le plan de Dieu, le plan, notre appel, qu'il fallait éviter les œuvres mortes, celles qui ne sont pas de Dieu. Attention, attention. Il convient toutefois de préciser quand même que souvent, quand Dieu nous révèle qu'on a quelque chose à faire, de ce que Dieu attend de nous, quand il nous donne une vision de notre appel, très souvent il est nécessaire, avant d'y arriver à cette vision-là, de passer par plein de petites étapes. Et ça, c'est important de l'accepter. Parce que ça fait partie de votre formation. Merci Seigneur. Parce que tu nous formes, tu ne nous mets pas directement. Pouf! Toi là! Tu sors de l'école? Pasteur! Oui Seigneur, où je suis là? Non. Tu nous mets 10 ans, 15 ans, 20 ans pour apprendre. Alléluia. C'est bon. Il faut reconnaître que c'est bon. Ce que Dieu nous prépare. Alléluia. Et si parfois nous semblons être éloignés de notre but final, réussissez d'abord ces petites choses-là, ces petites épreuves que le Seigneur nous donne, ces petits travaux, peut-être, parce qu'on commence par des petits travaux, et puis après le Seigneur nous en confie de plus importantes. Mais il faut commencer par les petits travaux. Alors si le Seigneur vous dit au départ, va laver les toilettes, oui, oui, tu vas être pasteur, commence par laver les toilettes. Faut pas dire non. Vous savez, je connais pas de pasteur qui n'ait pas commencé par là. Alléluia. Alléluia. Finalement, quoi? Finalement, avec tous ces petits travaux-là, on va arriver à être la bonne personne pour le bon appel du Seigneur. On va être là, efficace, et on va réussir parce qu'on est prêt pour ça. On a été préparé pour ça. Et finalement, on va être capable, enfin capable de réaliser notre appel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est donc important pour nous de bien distinguer dans un cheminement qui est nécessaire et qui va vous porter là où le Seigneur veut que vous alliez, d'une voie qui vous conduit à l'envers, de ce que Dieu peut vous faire faire. C'est à nous de distinguer ça. Quelque chose qui va vous détourner de votre appel, Dieu va vous le montrer. Et vous ne le ferez pas. Et nous ne le ferons pas. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui va nous le dire. Alléluia. Alors parfois, c'est sûr qu'il va falloir qu'on réalise les tâches qu'on nous demande et qui ne sont pas forcément celles que l'on voudrait. Faites-le de bonne humeur. Faites-le comme si c'était pour le Seigneur. Et c'est pour le Seigneur. Amen. C'est ça qui va faire la différence. Alléluia. Quelques petites remarques que j'ai pu regarder un peu en m'inspirant de la parole pour des causes qui peuvent nous conduire à un moment donné de notre vie de rompre notre engagement. Parce qu'on parle de quoi là ? On parle de l'engagement de notre vie. Nous nous sommes engagés avec le Seigneur le jour de notre baptême à le suivre, à devenir serviteur du Seigneur. Cet engagement-là, il est pour toute la vie. Parfois, il y a des moments où on va faiblir dans notre engagement. Et c'est bon de les regarder en face, de voir pourquoi, comment, afin de faire attention et de les éviter. Première chose, c'est, et ça m'est arrivé, je parle aussi de mon expérience là. Première chose, cause de l'échec de l'engagement, c'est le découragement. Vous savez que le découragement va légitimer l'abandon. Pourquoi est-ce qu'on risque de se décourager ? Chose que j'ai vue dans ma vie, c'est que souvent, j'ai trouvé que c'était trop long. Seigneur, c'est trop long. Seigneur, je sais que tu m'as promis ça, c'est trop long. Et Jacques 5, 8 nous dit, vous aussi prenez patience, ayez le cœur ferme, car la venue du Seigneur est proche. Alléluia. Oh, que ce verset peut nous aider. Alléluia. Ça prend trop de temps, on se lasse, on perd patience. Le fruit de l'esprit qu'il faut développer ici, c'est la patience. Apprendre la patience, être patient. Souvent, dites-vous bien ça, et moi je l'ai compris des années après, enfin c'est pas très longtemps quand même, le fruit de l'esprit à développer donc, c'est la patience, et souvent ces choses-là, on n'a pas ce qu'on veut parce que ces choses qui tardent, ben, nous ne sommes pas prêts à les recevoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées dans notre vie. Elles ne sont pas réglées. Comment voulez-vous les recevoir ? Il faut les régler d'abord. Ne vous découragez pas. Réglez-les. Prenez-les ces choses et décidez. Ok, je vais les régler, Seigneur. Vous savez, peut-être que vous avez sauté une étape. Peut-être que vous avez oublié quelque chose. Ou alors peut-être que vous n'avez pas encore fait quelque chose. Est-ce que vous avez vraiment pardonné à tout le monde ? Des petits détails importants qui vont vous retarder. Alors ne trouvez pas le temps long. Dites pas au Seigneur, Seigneur, tu tardes. C'est pas vrai. C'est pas ça. Regardez quelles sont vos intentions réelles. Pourquoi vous le voulez ? Ah, tu veux ça ? Oui, je te l'ai promis. Tu veux ça, mais pourquoi tu le veux ? Quelle est la raison ? C'est quoi la raison ? Ok. Il faut se poser la question. Alléluia. Merci Seigneur. Deuxième chose que j'ai pu voir, c'est l'offense. On en parle beaucoup de l'offense, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui est... quelque chose aussi que j'ai vécu. C'est clair. Vous avez compris que je parle de moi, là ? Alléluia. Dans Proverbe 19, au verset 11, il est dit « Le bon sens de l'homme retarde sa colère, et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. » Oh ouais. Alléluia. C'est de passer au-dessus d'une offense. C'est si facile d'être offensé. Mais c'est aussi si facile de dire, j'enjambe cette offense. C'est fini, elle est là. C'est terminé. Je la laisse à côté. Je la laisse à celui qui me l'a faite. Et je le bénis. Cette seconde raison, c'est sûr, du découragement, c'est l'offense. On commence quelque chose, peut-être, des fois, on fait des choses. Puis c'est sûr que on fait des fois des erreurs. Bon. Et par fierté ou par orgueil, peu importe, on ne supporte pas la correction ou les remarques. Ah, oh, pourquoi il me dit ça, lui, il comprend rien. Moi, j'en sais 10 fois plus que lui. Merci, Seigneur. C'est bien d'être humble. L'offense, c'est une ruse du diable. Dites-vous à chaque fois que l'offense approche de vous, oh, c'est une ruse de l'ennemi. Moi, je ne marche pas avec. C'est un piège du diable. Sachez une bonne fois pour toutes que c'est une ruse du malin pour nous détruire. Nous avons besoin de travailler le pardon dans notre vie. Et même, parfois aussi, souvent même, la soumission. C'est une bonne chose, la soumission. Personne n'est parfait. Personne. Sauf Jésus. Et nous sommes tous, moi, vous, tous, en construction. On n'est pas encore arrivé. On est loin d'être arrivé. Et nous avons besoin de conseils. Chacun de vous, chacun de nous, on a besoin d'un conseil d'un Paul dans notre vie. Vous l'avez pas, ce Paul? Trouvez-le! Merci, Seigneur. Une autre cause, une troisième raison, c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction. Vous savez, le verset que sur lequel je me suis appuyé souvent, Caroline le sait, hein, la satisfaction, j'étais assez sensible à ça. C'est 1 Timothée 6 au verset 6. 1 Timothée 6 au verset 6. Oui, elle est d'un grand profit la piété pour qui se contente de ce qu'il a. Ouais. C'est bien de se contenter de ce qu'on a déjà. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas plus. Ça veut dire que ce qu'on a, on est bien content et on remercie le Seigneur. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce qu'il faut apprendre. Amen. Alléluia. Cette troisième raison du découragement, c'est l'insatisfaction chronique. L'insatisfaction, de manière générale, je ne dis pas qu'elle est anormale. Elle est normale. On désire toujours plus, c'est normal. C'est un cycle. Vous savez, l'insatisfaction est un cycle du comportement. Nous aspirons à quelque chose de meilleur. Mais l'insatisfaction ne doit pas bloquer notre contentement de ce que l'on a déjà. Je suis content de ce que j'ai. Je désire plus. Merci Seigneur, tu pourvois. Mais ce que j'ai, c'est correct. Et je te remercie. Je te remercie de ce que tu m'as donné. Mais si l'insatisfaction nous fait rejeter ce que nous avons déjà reçu, alors là, nous ouvrons la porte à la colère. La colère va monter, puis un sentiment d'injustice va se développer. Je ne suis plus content de ce que j'ai. Et là, je vous assure qu'il y a un dérapage. Il y a un dérapage. Mais on n'arrive pas là. Parce que Dieu nous empêche d'arriver là. Parce que on met notre confiance en lui. Et lui seul. Alléluia. Alors on est content. C'est si facile d'éviter cela. Il suffit d'être content de ce que l'on a. On peut dire, oui, je veux plus. Seigneur, je veux plus, je veux avancer encore plus, parce que je veux bénir plus. Mais de ce que j'ai déjà, merci Seigneur. Je suis content de ce que j'ai. Alléluia. Notre raison, je vais pas citer toutes les raisons là, hein, mais celles qui me paraissaient les plus évidentes. Notre raison, c'est la fatigue. C'est quoi la fatigue? Ben, on l'a dans Proverbe 23 au verset 4. Vous allez comprendre. Ne te fatigue pas pour acquérir la richesse. Cesse d'y penser. C'est quoi la richesse? On parle là de la richesse du monde. Donc on parle de tout ce qui est du monde. Ne te fatigue pas à acquérir la richesse. Ça veut dire, ne rentre pas dans des choses qui ne sont pas du Seigneur. Tu vas te fatiguer, mon ami. Ne braque pas tes yeux sur, oh la belle voiture, waouh la Ferrari. Vous savez ce qui s'est passé avec la Ferrari en France, là? Elle a été arrêtée par les policiers parce qu'elle allait à 240 km/h. La voiture a été confisquée, il l'a perdue, et le gars, il n'a plus de permis à vie. Braquez vos yeux sur le Seigneur, pas sur la Ferrari. Alléluia. Je mets mes pensées, j'aligne mes pensées sur le Seigneur. Je ne les aligne pas sur ce que le monde veut me montrer de beau. Elle brille, la Ferrari? Non, elle est terne. Elle est sous une bâche. En ce moment. Alléluia. Fatigue, c'est aussi que on sent quelque chose et puis on dit c'est trop dur, c'est trop fatigant. Mais quel rapport écoutez-vous? Celui que vous dites votre cœur? Si c'est de Dieu, vous aurez l'énergie, la puissance, la force pour accomplir sa volonté. Si c'est pas de Dieu, ne vous fatiguez pas. Vous allez rompre votre engagement. Ça ne sert à rien. Alléluia. Alors sachez être sage. Des fois, là, on se rend compte que on veut faire ça parce que ça nous plaît. Puis, c'est tellement difficile, c'est tellement dur. C'est là, peut-être, qu'il faut s'arrêter et dire, ah, si c'est dur comme ça, peut-être que c'est pas pour moi. Et là, il faut ouvrir les yeux et dire, ah, si c'est pas pour moi, là, ce que je fais, peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui, dans l'ombre, là, il est en phase de se tenir prêt. Peut-être c'est lui dire dans l'épaule, embarque. Moi j'arrête. Embarque. Alléluia. Quel beau cycle. Être chrétien, c'est tellement magnifique. C'est tellement valorisant d'être chrétien et de vivre au milieu de frères. Alléluia. Alléluia. Et si vous êtes à votre place, dites-vous bien que personne au monde ne peut faire ce travail mieux que vous. Vous y êtes prédestiné. Personne au monde ne peut le faire aussi bien que vous. Alléluia. Alors réussissez votre engagement. Réussissons tous ensemble notre engagement. Lequel? Celui pour lequel vous êtes destiné depuis la création du monde. Celui-là. Alléluia. Je vais aborder une autre cause de désengagement, on va dire. C'est la distraction. Et là, c'est vaste. C'est très vaste. Distraction, c'est beaucoup de choses. C'est aussi bien l'aveuglement du monde que de rentrer dans quelque chose qui représente pour vous toute votre vie. Tout ce que vous avez attendu. Dans 1 Pierre 2, verset 1, il est dit « Rejetez donc toute méchanceté, toute ruse, toute forme d'hypocrisie, toute forme d'envie et de médisance. » Dans Romains 13, il est dit « Comportons-nous convenablement, comme en plein jour. » Blablabla. « Sans dispute ni passion, jalousie. » Il y a le mot jalousie. Il y a le mot brillant, il y a le mot jalousie. Alléluia. C'est l'attrait du monde. C'est l'attrait du monde qui est un aveuglement qui dépasse l'attrait que vous avez pour Dieu. Et ça, c'est pas correct. Que se passe-t-il? Ben, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai le temps. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme qui arrive à une place de travail, pour travailler comme ingénieur, dans une très grosse multinationale. Tellement immense qu'elle est tentaculaire. Elle prend tout le monde, cette multinationale. C'est l'une des 10 premières compagnies du monde. Immense. Des dizaines de milliers de collaborateurs. Et c'est sûr que la concurrence entre les gens là est terrible. Terrible. Pendant des années, ce jeune homme va s'acharner à faire sa place. Pendant des années, il n'est pas traité à sa vraie valeur. Ce qu'il pense. Malgré tout, il continue à faire les preuves. Au cours de longues années, il fait des preuves de ce qu'il sait faire, de sa capacité, mais ça ne marche jamais. Et il s'épuise, il s'épuise, il s'épuise. Il s'épuise à quoi? À essayer de se faire valoriser par le monde. Finalement, il est épuisé et il se tourne vers le Seigneur. Il est déjà bien avancé dans le Seigneur, mais il se tourne vers le Seigneur. Et là, il décide vraiment de ne plus négliger ce qu'il a négligé pendant des années. Parce qu'il était trop occupé, trop zélé pour le monde. Et là, il découvre que le Seigneur le réserve pour une tâche très particulière. Il commence à s'engager avec le Seigneur. Et il obtient vraiment la grâce de Dieu pour trouver le temps, le soir, de faire des cours bibliques pendant des années. Et Dieu, pendant ce temps-là, s'occupe de lui, le protège. Et cela dure des années. Enfin, il envisage de répondre à l'appel que le Seigneur a donné. C'est de servir le Seigneur. Et vous savez ce qui se passe? En même temps, contre toute attente, il se voit offrir l'improbable, l'impossible. Ses employeurs, enfin, lui accordent une place qu'il mérite. Mais quelle place? Une place de chef. Mais cela signifie pour lui plus de responsabilités et donc moins de temps de disponible pour son appel. Tout ce qu'il avait voulu pour sa carrière, maintenant on lui offre sur un plateau. Oui, mais le prix à payer est très lourd. Il doit abandonner son appel. Parce qu'il n'a plus de temps. Vous savez, son agenda, il est rempli, déborde. Et il faut qu'il fasse un choix. Soit prendre enfin tout ce qu'il avait toujours désiré, une belle condition sociale, mais oublier son appel. Soit tout laisser, suivre le Seigneur et réaliser son appel. Oui, mais tout laisser, c'est trop dur, trop difficile. Il ne peut pas, puis se pose des questions. De quoi va-t-il vivre? Il se trouve toutes les objections, toutes, pour ne pas le faire. Surtout pour ne pas abandonner sa condition sociale, qu'il croit avoir méritée, qu'il croit avoir gagnée de ses forces. Il est constamment en conflit avec lui-même. Une partie de lui veut obéir au Seigneur, et une autre partie veut tout lâcher. C'est-à-dire lâcher tous les biens matériels, tout ce qui est superflu, tout ce qu'il croit avoir mérité. Et souvent, c'est ce qui se passe. On va pleurer. On va pleurer pourquoi? On va gémir. On va gémir pourquoi? On va se plaindre. Parce qu'on veut obéir au Seigneur. On va se plaindre parce qu'on veut obéir au Seigneur. Et on se plaint de notre infortune parce qu'on n'a pas ce qu'on veut pour obéir au Seigneur. Et on va chercher des gens pour nous écouter. Des gens pour même pour prier pour nous. Mais quand Dieu ouvre les portes, ah, c'est pas exactement comme on l'espérait. Il y a des sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices. On ne veut pas les faire. On n'a pas envie de les faire. Et finalement, tout bien considéré, on préfère rester comme on l'était. Finalement, c'était pas si mal. Mais en agissant comme ça, on se moque de Dieu. Voilà une bonne explication de ce que je veux dire en parlant de distraction. On est aveuglé par les brillants du monde et on oublie le diamant du ciel. Merci Seigneur, ta force. Pour finir mon histoire, ce jeune homme qui est devenu plus mature, finalement il a abandonné son travail et aujourd'hui il sert le Seigneur avec sa famille, toute sa famille. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On va essayer de... On parle de quoi là? On parle de l'engagement. On parle de l'engagement solide. Un engagement qu'on veut avoir avec le Seigneur et qu'on ne veut pas laisser, on ne veut pas abandonner. Alors je me suis intéressé à voir comment est-ce qu'on peut réagir en expliquant aux autres l'engagement là, quand on a l'engagement, qu'est-ce que j'ai en fait? J'ai essayé de faire un petit peu le trajet à l'envers. Quand on réussit, je me suis appuyé sur des hommes de foi, qui ont réussi leur engagement. Et qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces hommes-là? Mais ils ont deux choses. D'abord, ils sont inébranlables. Ils sont devenus inébranlables. Donc là, le mot, c'est inébranlable. Ils sont devenus inébranlables. Et deuxièmement, ils savaient qu'ils avaient la provision pour y arriver, inébranlable, et la certitude d'avoir la provision. Ces deux choses restent. Nous sommes devenus inébranlables quand nous avons réussi notre engagement. C'est ce que disait Paul. Il a réussi sa course. Il était ancré sur le roc. Et Paul, il a eu la provision pour y arriver toute sa vie. Parce qu'il se contentait de ce que Dieu lui a donné. Des fois, c'était la profusion, des fois, c'était la famine. Mais en tout moment, il s'est contenté de ce que Dieu lui donnait. Et Dieu n'a jamais manqué de lui donner ce qu'il avait besoin. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on devient inébranlable? On arrive à la fin. D'abord, par un travail personnel. La Bible nous dit... Dans Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos dirigeants et soyez-leur dociles, car ils veillent personnellement sur vos âmes, puisqu'ils en rendront compte. C'est pas rien, ça. Ainsi pourront-ils se faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne tournerait pas à votre avantage. L'obéissance. Comment l'obéissance ? En apprenant à s'abandonner au Seigneur. L'abandon va nous rendre malléables dans la main de Dieu. Et nous reconnaissons que c'est lui qui agit. Et que la gloire lui revient. C'est ça l'obéissance. Ensuite, la connaissance. La connaissance, c'est quoi? En apprenant à passer du temps avec la parole. Pas de temps en temps, régulièrement. Régulièrement, ça veut dire tout le temps, pour moi. Et à comprendre la vision que Dieu vous donne. La vision va vous apporter la confiance dans votre décision. Troisième chose, c'est la fidélité. Comment? En apprenant à développer une relation et des contacts basés sur la pureté de cœur avec le Seigneur. Cette relation avec le Seigneur va nous apporter de la force dans notre volonté. Pour quoi faire? Pour commencer l'œuvre et pour la finir. Alléluia. Et enfin, la ténacité. Comment? En apprenant à rester brûlant. On en revient à brûlant. Et rempli du Saint-Esprit tout le temps. Le fait d'être brûlant va faire que la réussite Le fait d'être brûlant va faire que la réussite devient le désir le plus profond de notre cœur. Ah, j'avais parlé d'une clé. C'est ça. C'est ça. L'envie de réussir est entrée dans notre cœur et cela devient prioritaire. Et une deuxième chose, par un travail en unité avec les autres dans le corps du Christ. Se sentir soudé aux autres. Être soudé aux autres. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes ses membres. Alléluia. Nous sommes en train de bâtir sur un grand chantier. Et les remarques que je peux faire sont les suivantes. Sur ce grand chantier, on ne peut pas travailler seul. Donc, il faut apprendre à regarder autour de nous. Découvrir les autres. Découvrir les autres ouvriers. On a besoin d'aide. Donc, il faut apprendre à accepter les autres. Et à accepter qu'ils vous aident. Il faut aussi s'offrir comme volontaire. C'est par une motivation d'être volontaire que nous allons nous sentir appréciés par les autres. Alléluia. Et Dieu va nous donner la révélation. On doit être capable de se défendre en construisant. C'est la dernière chose. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que lorsqu'on est dans le chantier de Christ, d'une main, il faut avoir le marteau, et de l'autre main, il faut avoir l'épée. Et c'est là qu'on construit avec le Seigneur. L'épée et le marteau. Alléluia. Il faut donc s'organiser, il faut se structurer. Il faut apprendre à déléguer, à faire confiance. Alléluia. Une dernière petite chose, je parlais d'être sûr qu'on a assez de provisions. Et ça, c'est important. Je ne peux pas m'arrêter là. Il faut que je continue là-dessus. Vous savez, c'est important la provision. Il faut prendre les bénédictions de Dieu, la manne que Dieu nous donne. Et ça, il faut le faire tous les jours. Regardez la manne dans Josué 5, verset 12. Je vais lire rapidement. Regardez ce qu'il dit là. C'est important. Josué 5, verset 12. Et la manne, c'est ça. Le lendemain, quand ils eurent mangé les produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent de la production du pays de Canaan. Cette année-là. Oui, mais jusque-là, ils ont eu la manne tous les jours. Et là, ils n'en ont plus de la manne parce qu'ils ont tous les fruits du pays. Dieu pourvoit. Chaque jour, Dieu apporte ses bénédictions. Et la provision qu'il nous donne, elle est suffisante pour tout le jour, pour que nous puissions toujours aller de l'avant. Mais il faut s'habituer à prendre ses bénédictions tous les jours. La table de Dieu, vous savez, elle est dressée tous les jours. Pour cela, il faut deux choses. Il faut apprendre à reconnaître nos bénédictions. Et il faut apprendre à se servir sur la table du roi. Comme un enfant du roi. Le Seigneur nous dresse une table pour nous. Et ce qu'elle contient, cette table, elle est à prendre le jour. Tous les jours, elle sera remplie à nouveau. Et tous les jours, le Seigneur, il veut qu'on prenne tout ce qu'il y a sur cette table. Parce que nous allons en avoir besoin pour tenir jusqu'au lendemain. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Avoir assez de provisions, c'est s'approcher de la table tous les jours avec assurance et de prendre ce qu'il y a dessus. Alléluia. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tous les jours de ma vie, de ma naissance jusqu'à hier, étaient nécessaires pour aujourd'hui. Et que tous les jours de ma vie, de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, sont nécessaires pour demain. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Veillons tous les jours à prendre ce que le Seigneur nous dresse sur la table. Merci mon Dieu. Jean-Charles. Alléluia. Je te rends grâce Seigneur. On te rend grâce Seigneur pour ta parole. Alléluia. Alléluia. Vous savez, tous les dimanches, on laisse l'opportunité de venir dans la famille de Dieu. Alléluia. Si une personne ici n'a pas l'assurance de faire partie du royaume, d'être sauvée en présence de Christ pour l'éternité, c'est peut-être le jour de votre salut aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Si c'est le cas, montrez-vous au Seigneur. Levez la main, dites, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. Je viens à toi. Alléluia. Alléluia. Car Romains 10, verset 13 dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Quiconque. Il ne fait exception de personne. On va tous répéter en même temps. On est tous en présence du Seigneur. On est tous enfants du Seigneur. Mais c'est bon des fois de répéter ce que l'on est. Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche, je confesse de ma bouche. Vous pouvez le répéter. Je te confesse Jésus comme mon Seigneur. Et je crois, Seigneur, dans mon cœur, que Dieu t'a ressuscité. Et je suis sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur que je parviens à la justice. C'est en confessant de ma bouche que je parviens au salut. Et je confesse maintenant, Seigneur, que tu es mon maître, mon sauveur et mon Dieu. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.